L'affaire Dominique Aubry, mort suspecte d'une riche veuve. Narration, Florent Houllier. Une libellule, un renard et un dalmatien. On pourrait singer une fable de La Fontaine si la gravité des faits n'appelait pas à la retenue. Pas de vers ni de prose, donc, d'anthropomorphisme, place plutôt au monde charmant et discret de la bourgeoisie parisienne, aux convoitises, aux soirées dorées et à une somme d'argent exorbitante sur la table. Les ingrédients clés de toute affaire de succession délicate qui se respecte tant soit peu. Pour l'aborder, deux manières, deux versions s'affrontent. Police, justice, experts, famille, témoins et suspects ne cesseront de tourner autour, préférant l'une à l'autre. Une quête de la vérité qui va prendre son temps, quitte à briser des vies, à s'engager sur des chemins étonnants, à expérimenter des méthodes parfois si burlesques qu'on ne sait s'il faut en rire ou prendre peur. Tout commence sur un quai de Seine peu fréquenté, caché à Neuilly-sur-Seine, le long du boulevard du Général Koenig, derrière les saules et de petits jardins en friche. Sur le fleuve, l'île de Puteaux s'étend sur 2 kilomètres. Au nord, la Grande Arche supplante le quartier de la Défense. À hauteur d'homme est amarrée la Martinique, une péniche, un houseboat, une barge. Personne ne se met d'accord sur ce bloc blanc posé sur l'eau, 300 mètres carrés, 2 étages, une terrasse en bois. On serait tenté d'aller visiter. Franck Renard Payen aussi. Mais ce jeudi 1er décembre 2005, à 13h15, le jeune homme de 36 ans, silhouette d'allumette, brushing soigné et grands yeux doux, se heurte à la passerelle relevée, au volet clos, à l'interphone muet, à la messagerie de la propriétaire avec qui il a rendez-vous pour déjeuner. Il se rabat sur le voisin de péniche, M. Voidet, qu'il connaît, à qui il demande les doubles de la télécommande et des clés. Le bip abaisse lentement la passerelle, la voix se dégage. Franck disparaît à l'intérieur de la Martinique, en prenant soin de ne pas laisser sortir Théo, le chien du navire, un dalmatien. C'est finalement Franck qui ressort le premier, vite, trop vite, blême et haletant. Il interpelle Voidet, le voisin, et compose le 17 en criant à l'aide. Une unité de police du commissariat de Neuilly-sur-Seine arrive dans la foulée. 14h27. Le capitaine Jean-Pierre Colombi entre dans la péniche. On en profite pour se glisser dans l'interstice, comme Théo, le dalmatien. L'équipe de police avance à tâtons dans un dédale plongé dans le noir, jusqu'à ce que la lumière perce les hublots, les baies vitrées, dévoile une salle de sport, un jacuzzi et une véritable galerie d'art. Des meubles majorels remplissent les pièces, des vases galés trônent dessus, des toiles de maître habillent les murs, signés Matisse, Toulouse-Lautrec ou Miro. Dans le salon, entre les 2 canapés, une bouteille de vodka aux 3/4 vide repose sur une table basse, avec 2 plaquettes éventrées de médicaments, du Stilnox, ainsi qu'une boîte vide de Lexomil et un fond de verre maculé d'une poudre blanche. Le chien observe la venue des policiers. Il est sagement assis au pied de sa maîtresse. Cette dernière est pendue à l'escalier en colimaçon, grimpant au premier étage. Elle s'appelle Dominique Aubry, née Fontaine, 57 ans, petit gabarit, femme autrefois légère et pétillante, surnommée Libellule ou Libé par ses amis. Elle porte les cheveux blonds et courts, un pull vert, une paire de jeans. 2 chaises au dossier brisé sont renversées au sol, une corde en nylon bleu enserre son cou d'un nœud coulant. Un second nœud, plus complexe, en 8, s'enroule à l'autre extrémité, autour de la 11e marche et des barreaux attenants. Le corps ne semble souffrir d'aucune séquelle de lutte, la péniche ne présente aucune trace d'effraction. Conserve dans ses chambres des portefeuilles garnis, des papiers, des montres, des bijoux, planqués partout, dans les canalisations, derrière la trappe d'accès de la baignoire. Le légiste en charge de l'autopsie relèvera un taux de plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, couplé à une dose conséquente de somnifères et anxiolytiques ingérés. Le médecin situe approximativement le décès dans la nuit du 30 novembre, la veille. Vaste fenêtre, et compile dans son rapport les caractéristiques d'un suicide par pendaison. Le degré de cyanose, mesuré à la teinte bleutée prise par la peau lorsque l'oxygène dans le sang vient à manquer, le sillon cervical creusé par la corde, le syndrome d'asphyxie mécanique, en l'occurrence volontaire, des voies respiratoires supérieures. Ainsi se conclut pour Dominique Aubry une année des plus sombres, lugubres, et ce, dès les premiers jours. Janvier 2005, elle et son mari rentraient d'un séjour sur l'île Maurice. Les vacances de Noël se sont achevées, l'avion qui les rapatrie en France décolle de la piste, et la minute d'après, Jean Aubry décède dans l'avion, à 60 ans et à 20 000 pieds d'altitude, d'une crise cardiaque foudroyante. La procédure à suivre, confuse selon les compagnies aériennes, le contexte, un vol long courrier sans escale, le nombre de passagers, contraint Dominique pour les 11 heures de vol à voyager aux côtés de son époux mort, enveloppé dans un linceul. Elle atterrit à Paris veuve, déboussolée, en proie à la dépression. En juillet 2005, elle tente une première fois de mettre fin à ses jours, dans des circonstances familières. Un ami, Franck Renard Payen, tiens, encore lui, s'inquiète de l'absence de libellule, essaye en vain de la joindre et sollicite sur place le second voisin, M. Baumé. Ils embarquent dans l'annexe du Pénichard, une petite annexe, font le tour de la Martinique pour découvrir Dominique inanimée, chargée en somnifères sur une chaise de la salle à manger. Cinq mois plus tard, Dominique recommence et s'assure cette fois que nul ne saura la faire revenir parmi les vivants. À voir aujourd'hui la péniche enroulée dans les rues balises jaunes, il n'est pas évident d'entrevoir une époque, pas si lointaine, d'insouciance et de bonheur, de l'imaginer en théâtre de veillées somptueuses, de grandes tables d'invités sur le pont, fumée de la viande sur le grill, éclats de rire et bains de minuit. Les Aubry ont vécu comme des noctambules, des bourgeois rock'n'roll, pour reprendre l'expression d'une de leurs amies. Des virtuoses des mondanités, habitués de toutes les soirées, réceptions, cabarets et clubs. Ils font de la nuit parisienne leur précaré, et si d'aventure ils s'en fatiguent, ils n'ont qu'à s'exiler un temps dans un paysage paradisiaque, dans un creux de littoral en Afrique. Ils le peuvent, ils en ont les moyens. Le couple s'est connu jeune, Dominique avait 16 ans, Jean en avait 20. Une relation fusionnelle, une fortune et une notoriété construite dans le monde de l'art et des antiquaires, à l'affût des bons coups. En semaine, le couple officiait dans une boutique avenue Mozart, dans le 16e arrondissement, un stand le week-end au marché Paul Bert des Puces de Saint-Ouen, au lieu prisé des chineurs de luxe venus de tous horizons. Cette opulence, cette richesse, désormais à la dérive en bord de Seine, empêche le capitaine Jean-Pierre Colombi de boucler son enquête en quelques jours, d'abonder dans le sens d'un suicide décidé par une dame égarée, dévastée par la perte de l'être aimé. L'inventaire de la collection d'art amassée sur sa péniche atteint un montant hallucinant. Couplé à la boutique dans le 16e arrondissement de Paris, au stand de Saint-Ouen, un grand appartement avenue Foch dans le sillon de l'Arc de Triomphe, une belle maison de campagne à Montfort-l'Amaury, des parts achetées dans deux sociétés civiles immobilières. À l'arrivée, les Aubry laissent derrière eux un héritage de 14 millions d'euros, et le capitaine de police n'aime pas ça. Un coup de téléphone de l'étude notariale semble lever un coin du voile. Dans son cabinet, le pauvre notaire s'arrache les cheveux, annonce à demi-mot au policier, secret professionnel oblige, une succession des plus salées. Dominique Aubry n'avait pas d'enfant, mais une mère et un frère avec lesquels ça n'allait pas. Le frère notamment, M. Fontaine, brasseur, avait auparavant emprunté à sa sœur et à son beau-frère 400 000 euros servant à raccommoder les affaires du défunt paternel reprises par le fils. Il ne les a jamais rendus. Le litige a couru des années, s'est réglé au tribunal et des saisies furent nécessaires afin que le frère Fontaine rembourse ses dettes, à moitié. En 2005, Dominique s'assure que cette famille avec laquelle elle ne s'entend plus ne touche pas un centime de sa poche. Quatre mois avant de mourir, elle se rend une première fois chez son notaire afin de faire bénéficier à son ami le plus cher une assurance vie de 900 000 euros. Deux mois après, elle recommence, modifie son testament, désigne comme légataire universel et exécuteur testamentaire cette même personne. L'ami proche, le regagnant du tirage, n'est autre que ce jeune homme aux grands yeux de 36 ans, aperçu plus tôt dans l'histoire. Franck Renard Payen, celui qui, de manière fortuite ou non, ne se trouve jamais très loin quand la mort guette.